Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, jusqu'où pousser la transparence en matière de défense ? Trois journalistes, dont un de Radio France, convoqués ce jour et demain dans les locaux de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pour compromission du secret de la défense nationale. C'est un des nouveaux épisodes dans le dossier des ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. Les trois enquêteurs pourraient être poursuivis pour avoir révélé une note de la direction du renseignement militaire, laquelle note répertorie les armes vendues par la France aux Saoudiens et qui seraient ces armes déployées dans la guerre au Yémen. Officiellement, ces armes ne sont pas censées être utilisées de manière offensive dans ce conflit qui a fait de très nombreuses victimes civiles. Alors hier, plus d'une quinzaine d'ONG ont dénoncé cette convocation. Elles y voient, je cite, une atteinte inacceptable à la liberté de la presse et à la protection des sources journalistiques et considèrent que les informations révélées sont d'un intérêt public essentiel. Mais en la matière, cette notion d'intérêt public se heurte à celle du secret défense qui vise à défendre les intérêts vitaux de la nation, sans que l'on sache toujours très bien d'ailleurs quelles sont les limites de ces intérêts vitaux. La France semble en avoir une définition assez large. Le Parlement en est encore réduit à valider les choix de l'exécutif sans véritablement jouer son rôle de contre-pouvoir. Alors jusqu'où pousser la transparence en matière de défense ? On en discute ce soir en compagnie de trois invités. Michel Goya, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien colonel de l'armée de terre. Vous êtes enseignant spécialisé dans l'histoire militaire et l'analyse des conflits. Votre dernier ouvrage, c'était l'an dernier chez Talendier, Les vainqueurs, comment la France a gagné la Grande Guerre. Pour discuter avec vous, une journaliste, Anne Poiret, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et documentariste. Vous publiez demain aux éditions Les Arènes, Mon pays vend des armes. C'est un livre qui avait par ailleurs fait l'objet d'un documentaire télé qui a été diffusé il y a quelques semaines et qui est rediffusé après-demain sur LCP, c'est bien ça ?
Exact.
Et puis troisième invité, Olivier Forcade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine des relations internationales à l'université, à Sorbonne Université, c'est comme ça qu'il faut dire dans ce
temps-là. Tout à fait.
A été publié il y a quelques jours de cela aux éditions du Nouveau Monde, c'est un ouvrage sous votre co-direction avec Sébastien Yves Laurent. Dans le secret du pouvoir, voilà, j'étais en train de chercher le titre parce que sur la couverture, c'était écrit tellement gros qu'on on a presque envie de rater le titre. Donc, dans le secret du pouvoir, l'approche française du renseignement du 17e au 21e siècle. Alors, je voudrais qu'on démarre cette discussion avec ce communiqué de presse des 17 ONG que j'évoquais pour dénoncer donc l'audition de trois journalistes qui ont enquêté sur les armes françaises au Yémen. Des ONG qui voient une menace sur la liberté de la presse. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez, Anne Poiret ?
Oui, bien sûr, c'est une inquiétude parce que ce sont des sujets qui sont sur lesquels il est extrêmement difficile d'enquêter, de travailler. On vous oppose systématiquement cette notion du secret défense. Donc, de temps en temps, quand il y a des documents comme ça qui sortent, pour de bonnes raisons, c'est pas un document qui met en danger des opérateurs français. Il y a beaucoup de précautions qui ont été prises. Que la réaction immédiate ce soit cette convocation, c'est quand même extrêmement problématique.
Alors c'est une convocation pour l'instant. Hein. On ne sait pas quelles seront les suites éventuellement judiciaires qui seront données. Mais est-ce que vous, Michel Goya, vous comprenez l'inquiétude de ces ONG, d'une partie de la profession de journaliste, ou bien est-ce que vous considérez normal qu'il y ait convocation à partir du moment où il y a eu divulgation de documents classés secret défense ?
Eh bien, un peu les deux, en réalité, les deux, mon général. Oui, bien sûr. Comment dire, c'est toute la complexité du problème. C'est-à-dire que, pour le cas particulier des ventes d'armement, ce sont des ventes d'armement. Les armements sont considérés comme des instruments politiques. C'est pas, on parle pas de voitures, on parle pas ce sont des instruments de guerre et la guerre c'est un acte politique. Donc tout ce qui concerne la politique, notamment la politique extérieure, est soumise à une, comment dire, une contradiction. Je pense qu'on va quand même débattre là-dessus entre l'efficacité et la nécessité de transparence démocratique. Donc ça touche les exportations, ça touche les opérations militaires elles-mêmes. Hein. Comment on emploie la force, comment on emploie les instruments de puissance à l'étranger. Avec ce problème, cette contradiction entre l'efficacité, qui demande parfois, souvent, peut-être de la discrétion, voire du secret, et voilà, les nécessités de la transparence. Donc c'est un débat qui est difficile. Donc pour répondre à votre question, oui, je comprends les deux. Les journalistes sont dans leur rôle, effectivement, et en même temps, la DGSI applique aussi la loi, tout simplement.
Les journalistes sont dans leur rôle, la DGSI applique la loi, c'est aussi votre avis, Olivier Forcade ?
Oui, je crois qu'il y a, si vous voulez, une tension entre le besoin de comprendre et le besoin de savoir. Et au fond, chacun des acteurs est dans son rôle, à la fois historiquement, institutionnellement, juridiquement. Le secret de la défense nationale n'est pas nouveau. Il date de la Révolution française, enfin il est défini dans les textes réglementaires sous la Troisième République, le décret-loi de juillet 1939, et au fond il a été couramment appliqué de 1944-45 à 2019. Par conséquent, on est dans un état ordinaire de l'application du secret de la défense nationale à des faits qui intéressent la souveraineté de l'État. D'autre part, la définition, comme on l'a dit, des intérêts vitaux, des intérêts fondamentaux de l'État, laisse une marge extraordinairement large aux plus hautes autorités de l'État pour couvrir du secret de la défense nationale ce qu'elles pensent devoir couvrir, ou pas.
Vous dites qu'il y a à la fois la question de savoir, la question de comprendre, mais aussi la question du faire savoir. Est-ce que le faire savoir aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est de plus en plus demandé avec ce souci d'une plus grande transparence sur les questions de défense? Transparence qui, manifestement, n'est pas ce qui caractérise le mieux, peut-être, l'approche française en la matière.
Il y a, si vous voulez, un principe simple qui est de définir la limite à l'exercice des libertés et au droit de savoir. Par conséquent, l'accès à toutes les informations peut être considéré comme n'étant pas possible. Et les plus hautes autorités de l'État définissent ou ne définissent pas, appliquent ou réservent l'application du secret à un certain nombre de faits qu'elles portent ou pas la connaissance de l'opinion publique. Par conséquent, l'historien qui n'est ici ni juge ni avocat, mais qui regarde aussi l'application des grandes libertés publiques et de la liberté d'information, ne serait-ce qu'avec la loi du 29 juillet 1881, va rappeler cette tension.
Vous n'êtes ni juge ni avocat, mais vous êtes aussi un praticien. On aura peut-être aussi l'occasion de revenir sur la façon dont vous, en tant qu'historien, vous êtes confronté justement à cette question du secret défense. Mais vous disiez au début de votre intervention tout à l'heure, Anne Pourret, que vous y avez été confronté systématiquement. C'est-à-dire les limites, elles se manifestent comment? Et comment elles se sont manifestées dans votre enquête sur les ventes d'armes françaises?
Alors oui, je pense qu'il faut faire peut-être un peu de pédagogie. En ce qui concerne les ventes d'armes, il est donc interdit en France d'exporter de l'armement, sauf dérogation de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide ou pas, si vous avez le droit, en tant qu'industriel, de vendre ses armes. C'est une commission interministérielle qui décide de ça, elle s'appelle la CIEMJ. Le problème fondamental, c'est que les décisions, c'est-à-dire elle se réunit, en gros, pour faire simple, elle se réunit une fois par mois pour décider, pour statuer sur les ventes qui posent problème, sur les questions. C'est-à-dire que si vous vendez des boulons à la Suède, ce sera quasiment automatique. Mais pour certaines armes, pour certains pays, votre dossier sera étudié dans cette commission. Autour de la table, il y a le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, qui sont décisionnaires, tout ça sous l'autorité du Premier ministre. Le problème, c'est que les discussions que ces gens ont sont par nature, par définition, couvertes par le confidentiel défense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir comment se prennent ces décisions. Donc c'est pas une question de est-ce que ces armes-là y ont parlé ou pas. C'est par nature, on ne peut pas le savoir.
Est-ce que vous avez essayé de le savoir? Est-ce que vous avez réussi justement à pénétrer, alors si ce n'est directement, mais en tout cas indirectement, au sein de ces réunions?
Alors, on a d'abord essayé de mettre une caméra, ne serait-ce que dans la salle où se prennent ces décisions. Ça n'a même pas été possible d'avoir accès à la pièce, vide, hein, je ne parle même pas d'une réunion. Et les gens sont terrifiés justement par ce qui est en train d'arriver à mes confrères de Disclose et de Radio France, c'est-à-dire aux menaces et aux poursuites pénales. C'est-à-dire que quand on arrive à les approcher, ils le parlent de façon extrêmement générale des choses et tout est dans les soupirs et les sourcils levés parce qu'ils sont absolument terrifiés de se retrouver en prison, pour faire clair. Le problème, c'est qu'il y a quand même des décisions qui posent problème. Alors, quand on arrive à aller un petit peu en coulisses, on s'aperçoit qu'au niveau politique, il y a des décisions qui ont posé problème, il y a des débats qui ont eu lieu, qui sont houleux, qui sont compliqués, et sur lesquels on devrait être informé.
Vous êtes d'accord avec ça, Michel Goya? Alors, c'est-à-dire, à la fois, on peut comprendre qu'il y a une forme d'opacité qui existe, parce qu'il y a certaines informations qu'on peut être, qui sont peut-être problématiques si elles sont révélées à un grand public, mais ça donne aussi, du coup, l'image de quelque chose qui se fait systématiquement dans le secret, et donc qu'on nous cache des choses. Ça, c'est un vrai problème.
Oui, bien sûr qu'on cache des choses, parce que, encore une fois, c'est nécessaire. Une transparence totale serait, poserait énormément de problèmes aussi.
Mais entre la transparence totale et l'opacité totale, il peut y avoir de la marge.
La vraie question, c'est voilà, où se trouve le curseur, quoi, le juste curseur. Avec une spécificité peut-être française, c'est que les institutions de défense, on va dire, d'une manière générale, sont très centralisées en France, sous la Ve République. Ce qui est d'ailleurs une réaction à ce qui se passait, à l'inverse de ce qui se passait sur la République, les républiques précédentes. Donc il y a tout dépend de l'exécutif, tout se décide notamment au niveau du président de la République. Hein, c'est quelque chose de très centralisé. Ce qui a encore une fois des avantages en termes d'efficacité ou de rapidité d'action. Et en même temps, effectivement, ça a une tendance à l'exécutif se retrouve en première ligne déjà de chaque fois qu'il y a un problème, qu'on décèle un problème. Et puis ensuite, il y a peut-être aussi parfois effectivement il y a un abus, voire un abus d'emploi. Je prends l'exemple de l'emploi des forces armées, des opérations. C'est très facile en France pour le président de la République d'engager la force armée. Donc encore une fois, ça de l'efficacité, ça permet d'engager très vite sans avoir plein de débats, mais parfois on en abuse. Moi j'étais engagé, prendre juste un exemple, hein, j'étais engagé au Rwanda en 1992, c'était l'opération Norwa. C'était avant les massacres, hein, donc on était engagé complètement. Il n'y avait pas un Français qui savait que cette opération avait cours, existait. Et puis moi, sur place, il n'y avait pas une journée où je demandais, mais au fait, qu'est-ce qu'on fait là, quoi?
Même si on regarde le texte de la Constitution de la Ve République, premier alinéa de l'article 35, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, sauf que la France n'a pas déclaré de guerre depuis 1958. Ce sont des interventions.
Depuis 1939.
Oui, bien sûr. Non, mais je parlais évidemment du texte des institutions.
Alors qu'on n'arrête pas.
Voilà. Et ce qui est aussi sans doute une façon pour l'exécutif de garder la maîtrise de ça. Peut-être aussi longtemps, je ne sais pas, Olivier Forcade, avec l'assentiment aussi du Parlement. On a l'impression que c'est aussi une répartition des rôles qui, jusqu'à récemment, était plutôt bien acceptée.
Vous avez un problème qui intéresse le parlementarisme à la française. Vous avez un second niveau d'analyse qui est le fonctionnement du Parlement, des commissions parlementaires et des pratiques politiques de la Ve République. Vous avez troisièmement situation française, par exemple sur le contrôle externe, c'est-à-dire parlementaire du secret, qui renvoie à un usage très récemment installé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 2008, il n'y a pas de contrôle parlementaire externe sur les activités de renseignement. C'est la délégation parlementaire au renseignement établie en 2008, dont les missions ont été à nouveau précisées il y a quelque temps par la loi, qui est compétente. Mais le fait est, comme vous le dites très justement, qu'il n'y a pas la possibilité de tout savoir, pour une raison qui doit faire histoire ici. J'interpréterai la chose un peu différemment quand on dit « on nous cache tout ». Parce que selon qu'on parle de ce que l'on cache ou de ce que l'on protège, les mots et l'application de ce dont on parle changent de nature. En 1981, vous avez trois niveaux de classification du secret de la défense nationale. Le confidentiel défense, le secret de la défense nationale, qui était défini par décret-loi en 1939, et repris et étendu ensuite, et le très secret de la défense nationale. En 2018, cette classification est ramenée à deux, même s'il reste deux éléments dont parle notamment Michel Goya, c'est-à-dire le fait que certains faits ne sont pas connus, ne sont pas portés à la connaissance parce que les archives qui jouissent d'une classification conseil de défense, un conseil secret, c'est-à-dire les délibérations et les minutes du conseil de défense, désormais conseil de défense et de sécurité nationale avec les plus hautes autorités de l'État depuis 2010, protègent des décisions publiques des plus hautes autorités de l'État sur les enjeux de sécurité intérieure et extérieure. Et là, dans ce qu'on va appeler le conseil secret, des archives ne seront jamais communicables. Donc il y a, avec la protection du secret de la défense nationale, une protection de l'information ou des supports, qui peuvent être aussi des protections des personnes. Et deuxièmement, la loi prévoit, notamment celle sur les archives de juillet 2008, un délai de communicabilité. Par conséquent, vous voyez, il y a une problématisation ici qui est un peu différente. Il y a la protection de l'information, du secret, voire des individus, à un moment donné. Puis deuxièmement, il y a une seconde notion par la loi, qui est la protection de ces informations support avec une communicabilité de ces informations, mais à un délai donné, qui peut être levé par dérogation par la puissance publique.
Alors on a évoqué la question du contrôle parlementaire, on y reviendra dans un instant, mais puisque vous étiez sur cette question de la protection, et notamment de la protection des personnes, Olivier Forcade, on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à protéger dans le cas des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Vous citez un de vos confrères, Anne Poiret, le journaliste du Point, spécialiste des questions de défense, Jean Guinel, et qui dit ceci, hein, je cite votre ouvrage, « Autant il y a des choses, la longueur d'onde du machin, le micro-poil d'alliage du truc, oui, ça c'est du secret légitime, mais la prise de décision politique, le débat au sein de l'appareil d'État n'ont aucune raison d'être couverts par le secret défense. » Ces gens du gouvernement vendent des armes en notre nom, mais en plus, ces ventes d'armes nous rapportent de l'argent à nous, contribuables. Donc pas normal que les contribuables ne soient pas davantage mis au parfum de ce qui se passe.
Oui, mais bien sûr, et même les juges aimeraient bien avoir un peu plus d'accès. Quand Renaud Van Rienbeek a essayé d'enquêter sur les frégates de Taïwan, on lui a aussi opposé le secret défense sur ses décisions. Donc il y a sur les ventes d'armes à ce niveau-là. Donc il y a effectivement ici des poursuites étaient engagées aujourd'hui pour savoir si ces ventes d'armes sont compatibles et sont légales par rapport aux traités qui nous engagent. Parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que il y a effectivement des ventes d'armes qui s'effectuent, qui sont de la discrétion de l'exécutif. Mais il y a également des traités qu'on signe. Il y a une position commune européenne qui date de 2008. Il y a un traité pour le commerce des armes qu'on a ratifié en 2014. Et ces deux textes imposent qu'on ne vende pas des armes à des pays qui pourraient les utiliser pour commettre des crimes de guerre ou pour les utiliser contre leur population. Le problème, c'est que nos deux principaux clients, les deux dernières années, sont l'Arabie Saoudite, en guerre au Yémen, et l'Égypte, qui réprime sa population.
Donc, veut dire qu'il y aurait de bonnes raisons de penser que si on maintient le secret sur ces ventes d'armes, c'est parce que les règles qui sont celles à laquelle la France s'astreint désormais en ayant signé ce traité, ce TCA, ce traité de commerce sur les armes, n'est peut-être pas entièrement respectée.
Ben, moi, c'est ce que je pense. Je pense que les détails sont effectivement importants quand on nous dit de faire confiance et que la France ne fait pas n'importe quoi. C'est vrai, la force contrôle de façon très rigoureuse ces ventes d'armes, mais le problème, ce sont les détails. Moi, les documents que j'ai pu avoir, je le raconte dans le livre, il y a des situations qui sont très problématiques. C'est extrêmement difficile d'avoir accès à ces documents et quand on en trouve, on voit que dans les détails, il y a des problèmes, il y a des choses qui passent, il y a des pièces détachées de véhicules blindés à des dates où on s'est engagé auprès de l'Union européenne de ne pas les exporter, par exemple, à l'Égypte, qui ont été livrées sur des décisions du Premier ministre. Donc il y a des décisions qui sont politiques, qui sont très problématiques.
Qu'est-ce qu'on peut, je vous repose la même question, Michel Goya, qu'est-ce qu'on peut avoir à protéger en matière de vente d'armes aujourd'hui à nos partenaires extérieurs, notamment l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Égypte, hein, qui est notre principal client aujourd'hui.
Si je me place du point de vue, si je me fais l'avocat du diable.
Le diable, c'est qui? Le gouvernement français.
On devine. D'abord, oui, il y a la concurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne communique pas des choses qui pourraient profiter à la concurrence. On est en compétition aussi. Et ce sont des armes, des ventes qui rapportent beaucoup. Ça représente aussi beaucoup d'argent. C'est une source extrêmement importante de nos exportations. Donc il y a un enjeu aussi économique très fort. Et ensuite, surtout, le problème, c'est que on ne veut pas vendre d'armes à des gouvernements qui ne soient pas démocratiques, qui ne luttent pas contre leur population, on restreint aussi considérablement quand même le champ des possibles. La plupart des guerres qui ont lieu actuellement sont des guerres intérieures. Si on vend des armes au Mali, on peut accuser la France de vendre des armes à un pays qui lutte contre aussi c'est des gens qui sont à l'intérieur. Quoi. Ce sont des conflits internes.
Mais pourquoi ne pas assumer dans ce cas-là carrément, c'est-à-dire le fait de dire on vend des armes à des pays qui peuvent les utiliser dans des conflits et
Bien sûr, il y a un côté aussi hypocrite, parce qu'il y a aussi des règles, il y a des traités qu'il faut appliquer, tout simplement. Mais, je veux dire, trop de normes tuent la norme, en tout cas incite à le contourner. C'est la raison pour laquelle on a créé la DGSE, on a créé des services spéciaux, justement pour contourner quand même les limites imposées, notamment par les traités internationaux. Donc toutes les choses que l'on cache, on les regroupe là. Si on utilise beaucoup les forces spéciales, c'est pas simplement parce que ce sont des unités d'élite, c'est parce qu'on peut justifier la discrétion quand on les emploie, en disant là, on n'en parle pas, fameuses forces spéciales. Bon, en réalité, elles font souvent en fuite des missions qui sont tout à fait, régulières, qui sont faites par d'autres troupes. Donc il y a un besoin aussi, ou on ressent en tout cas un besoin de contourner des règles qui sont considérées comme trop rigides. Des contraintes qui sont considérées comme trop fortes. Justement pour être efficace malgré tout.
Vous évoquez les questions de concurrence, les questions de guerre commerciale qui font que la France a peut-être aussi intérêt dans ces conditions à masquer certaines informations pour rester concurrentielle. A priori, la France va rester le troisième exportateur d'armes dans le monde derrière les États-Unis et la Russie. Avant de revenir vers vous, Olivier Fourcade, cette question de la concurrence et cette question industrielle, là aussi, c'est quelque chose qui est assez présent dans votre livre, Anne Poiret. Vous vous rendez sur les fameux salons, notamment celui du Bourget, ma mémoire est bonne. Et là aussi, l'omerta, elle est quand même extrêmement importante. C'est-à-dire, vous avez du mal à faire parler les gens, déjà qu'ils acceptent, et ensuite à accepter de dire qu'ils vendent des armes de guerre. Ils utilisent un lexique un petit peu détourné pour ne pas vraiment assumer là aussi.
Oui, au-delà du confidentiel défense et de ce secret, il y a une forme d'omerta et puis il y a une forme de tabou, c'est-à-dire que ça fonctionne. Beaucoup de gens n'assument pas en fait ce. Il y a par exemple les gens de Renault Truck Défense aujourd'hui Arcus m'ont dit, donc ils vendent des véhicules blindés, et ils m'ont dit, vous savez, nous on ne vend pas des armes, on vend de la mobilité renforcée. Il y a tout un tas de lexique pour, on ne dit pas industrie d'armement d'ailleurs, on dit industrie de défense, il y a tout un champ lexical comme ça pour contourner le fait. Je pense que c'est la façon dont les gens aussi essayent de résoudre leurs problèmes moraux, mais la question morale est une chose, la question légale, vous le rappelez, il y a des traités. Il ne s'agit pas de se dire on ne vend pas des armes à pays qui sont en guerre, c'est très précis le TCA et la position commune. Donc le Mali, je ne suis pas sûre que ça se poserait. L'Égypte, en revanche, et la guerre du Yémen, ce sont des vrais cas. Et
Olivier Fourcade, les questions économiques, en tout cas, elles entrent en ligne de compte de manière importante dans la définition, dans l'endroit où on va placer le curseur pour dire ceci, c'est du confidentiel défense, du secret défense.
Oui, c'est fondamental. Et je suis ici, Anne Poiret et Michel Goya. L'écart que je vais faire dans la discussion, si vous voulez, porte sur le fait que, premièrement, en France, sous la Ve République, politique extérieure et politique de défense nationale, liées entre elles, font de la Ve un régime plus présidentiel que parlementaire. On peut le regretter. Et on peut imaginer, voire souhaiter, avec des ONG, avec des citoyens, avec des responsables parlementaires ou politiques, que l'expression du contrôle parlementaire ou d'autres formes de contrôle puissent aller plus loin dans notre pays. Le domaine réservé sous la Ve République protège les décisions, les délibérations de bien des actes de politique extérieure et de défense nationale. Sur la question économique, la question est de savoir jusqu'où va la transparence ou jusqu'où va le secret. Vous voyez, c'est une démarche dialectique ici, au fond, selon le point qu'on va adopter dans la position officielle, institutionnelle, qu'on exerce ou qu'on n'exerce pas. Si vous voulez protéger un brevet industriel sur la mise au point d'un système d'armes dans une compétition internationale qu'on vient de dire, vous pouvez utiliser le secret de la défense nationale. Si vous êtes sur des marchés d'exportation très compétitifs, vous allez protéger la propriété intellectuelle des matériels que vous exportez ou que vous voulez exporter. Par conséquent, on va être ici sur des actes de protection qui ne cherchent pas à nuire à la liberté de savoir ou de s'informer, mais qui, dans une logique en effet économique, industrielle, technologique, scientifique, protègent des données, protègent des laboratoires, protègent des industries publiques, privées. Par conséquent, la question ici s'écrit d'une manière, je dirais, assez complexe et qui peut être analysée de deux manières.
Est-ce que, Michel Goya, là je m'adresse à l'ancien militaire, ce secret défense, il ne devrait pas d'abord servir, et peut-être exclusivement servir, à la protection des hommes, c'est-à-dire la protection des soldats, davantage que la protection d'échanges ou d'intérêts commerciaux?
Oui, bien sûr. Il y a 4 jours, il y a eu une opération militaire extrêmement délicate de libération d'otages. Il était évident que cette opération devait rester secrète jusqu'au bout. Il y a un principe d'efficacité. Maintenant, effectivement, quand on parle d'équipement, de matériel, là aussi, on est sur des choses qui sont stratégiques aussi. Ne serait-ce d'ailleurs par leur volume, quand ça représente entre 10 et 15 milliards d'euros. Bon, vous dites, voilà, c'est aussi un enjeu interne, économique interne, donc ça devient aussi stratégique interne, c'est pas simplement de la relation internationale. Quand vous dites, voilà, un programme de Rafale, vous faites monter en flèche d'un seul coup vos exportations, une commande de Rafale, vous dites, bon, voilà, c'est le problème, le pays est pas forcément ce qu'on fait de mieux en démocratie, il utilisera, bon, peut-être, effectivement, forcément, une arme, de toute façon, par définition, elle est destinée à tuer. Voilà, c'est très hypocrite d'imaginer qu'on va vendre, on parlait des années 30, on parlait des armes défensives, des choses comme ça, tout un lexique qui est revenu. Je me rappelle d'un dessin de Plantu aussi, on voyait un avion qui larguait des bombes avec des petites étiquettes, bombes gentilles, bombes humanitaires, bombes qui ne tuent pas, etc., etc. Bon, faut arrêter un peu cette hypocrisie. Voilà, on est forcément la tentation, si vous voulez, de passer un peu outre des règlements, parce que les enjeux sont très importants, qu'ils soient stratégiques, on appuie des pays qui sont, je veux dire, dans notre camp, et des enjeux économiques sont tellement forts que bon, on justifie, alors peut-être, certainement, peut-être à l'excès, hein, ça devient un prétexte, hein, c'est comme le terrorisme qui devient prétexte à beaucoup de choses, finalement, qui justifie de tout un tas de restrictions de liberté, bon ou mauvais escient, mais qui justifie beaucoup de choses. Donc, ce sont des labels qui permettent, on en profite aussi, on profite de cette nécessité, parfois, probablement jusqu'à l'abus. Voilà, c'est juste un... Comment dire, il y a des opérations, ça me rappelle aussi des années 70, enfin aux États-Unis, où on s'est aperçu que voilà, les services spéciaux, justement les services destinés à contourner un peu les règles, avaient fait beaucoup de choses, avaient fait un peu n'importe quoi, et c'était la force de rester opaque, et donc ça avait imposé un retour au contrôle démocratique, jusqu'au moment où on s'est dit, bon, ben oui, mais trop de contrôle aussi, ça rend impuissant.
Les États-Unis, justement, Olivier Forcade, puisque vous expliquiez notamment cette approche spécifique de la France du secret défense, oui, en fonction de son régime institutionnel, on n'est pas dans le même régime aux États-Unis, il y a un vrai contre-pouvoir qui est exercé par le Parlement. Est-ce que ça change quelque chose, justement, sur l'approche du secret défense?
Oui, explicitement. Vous prenez la commission Feinstein, du nom de la sénatrice de Californie, soutien de Barack Obama, qui, en 2014, sort et va traiter la question de l'enquête de la commission sénatoriale du renseignement sur les actes de torture, le waterboarding, à Abu Ghraib, Guantanamo, entre 2003 et 2006. Le Parlement, en la commission sénatoriale du renseignement, publicise les actes qui ont été commis par la CIA notamment, et couverts par les États-Unis, en tout cas le président George W. Bush. Et en 2014, à l'approche des élections du mid-term, les résultats de la commission d'enquête ne sont pas délivrés par un accord entre Barack Obama, Feinstein et la CIA. Et finalement, c'est un peu plus tard qu'en 2015, que les résultats vont être publiés devant l'opinion publique américaine et internationale. Par conséquent, il y a des voix. Ici, la puissance de la démocratie américaine et la force du Congrès et le parlementarisme à l'américaine construisent une relation à l'opinion publique, devant le monde, qui est d'une nature différente.
Alors pour autant, est-ce qu'on peut réduire ces différentes approches simplement aux différents régimes institutionnels? Je reviens à nouveau à votre livre, Anne Poiré, il y a un chapitre qui s'appelle « L'impossible contrôle parlementaire ». Alors vous posez la question et vous rappelez qu'à chaque début de législature, les députés de la commission défense et des affaires étrangères, commission de la défense nationale et des forces armées, a la possibilité de recevoir les industriels de l'armement, de leur poser toutes les questions qu'ils peuvent, et vous faites le constat que les questions qui sont posées sont des questions plutôt bien gentilles. C'est, en gros, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin, quoi, finalement. Ils vont pas chercher très loin.
Alors, pour le coup, ça, c'est public, donc je recommande à tout le monde de les regarder. C'est sur le site de l'Assemblée nationale. C'est vraiment intéressant. C'est un outil de contrôle démocratique, hein. C'est trois fois une heure et demie d'audition des patrons et des représentants de l'armement par arme. Donc, il y a, voilà, le matériel de l'armée de terre, pour l'armée de terre, enfin, voilà. voilà. Donc c'est 4 fois une heure et demie, et c'est 4 fois une heure et demie à quelques rares exceptions près. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Il y a quasiment pas de questions contradictoires en début de mandature, et c'est vrai que c'est extrêmement perturbant. Il y a notamment une audition qui se passe le jour de plusieurs mises en examen dans le cadre d'affaires d'enquête de commission et de rétrocommission, suspicion de rétrocommission sur impliquant Naval Group, ancien des CNS, le patron de cette industrie, de cette entreprise est auditionné, et il n'y a pas une question sur ça, c'est perturbant.
Comment vous l'expliquez ?
Par une habitude, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une habitude qui a été prise, c'est pas l'exécutif, c'est ce qu'on a une interview avec un député représentant de Brest, Jean-Charles Larsonneur, qui a été assez terrible parce qu'on s'est aperçu qu'il n'avait pas lu le rapport, en fait, six mois après sa prise de fonction, le rapport au Parlement, qui, je le rappelle, ce sont les seuls chiffres publics auxquels on peut avoir accès. Et on s'aperçoit que, enfin, dans le off qu'il pouvait nous livrer, il pense que la caméra ne tourne plus. Il nous dit, mais c'est pas nous qui pouvons contrôler ça. C'est pas ici que ça se passe. C'est au château. C'est pas des petits députés dans leur bureau qui vont faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est terrible, en fait, que les députés aient intégré le fait que on ne poserait pas de questions. Ils n'auraient pas de réponse à ça. Alors, il y a quand même une mission parlementaire qui a été nommée, hein. Il y a une commission d'enquête qui a été demandée, ça fait plus d'un an qu'elle est refusée, sur le Yémen, sur les armes qui ont été vendues à l'Arabie Saoudite.
Il y a notamment un ancien député de la République En Marche, Sébastien Adot, qui demande cette commission d'enquête.
Depuis un an.
Il y a une mission d'information
qui a été nommée, effectivement.
C'est pas tout à fait la même chose.
La même chose. C'est pas du tout les mêmes noms. Il y avait déjà eu un rapport parlementaire d'une mission préconisant un certain nombre de choses pour créer une commission, pour que justement les gens des ONG puissent la société civile puisse y participer, que parlementaires de la commission des affaires étrangères, par exemple, soient associés à cette étude. Donc rien n'a été fait. Et ce qui est un peu perturbant, c'est que cette mission est dirigée par un député qui n'était pas du tout parmi ces députés qui demandaient cette commission d'enquête, et qui est un ancien du Quai d'Orsay, qui a participé aux négociations pour un contrat avec l'Arabie Saoudite sous François Hollande.
Peut-être que s'il y avait davantage d'anciens militaires parmi les parlementaires, ils s'intéresseraient davantage, j'y poserais de meilleures questions, Michel Goyano. Mais blague à part, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, peut-être aussi, d'intérêt plus marqué de la population française en général et des élus de la nation pour ces questions? Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission où régulièrement, justement, vous notiez cela, c'est-à-dire que finalement, on parle de questions, mais on ne sait pas grand-chose, c'est-à-dire on s'y intéresse assez peu, finalement.
Ben oui, alors les parlementaires, en dehors de leurs soucis, de leur sens civique, de leur souci du bien national, du
bien public, vous prenez des précautions.
Ne sont pas forcément, ce que je veux dire, ils sont pas forcément personnellement, incités à s'intéresser particulièrement à ces choses. On parlait des États-Unis, mais les États-Unis, il y a tout, alors là aussi, c'est faussé par tout un travail de lobbying, etc. Souvent, le travail des parlementaires consiste à faire en sorte que l'industrie soit sur l'État qui les a élus. Enfin, il y a tout un jeu aussi très très intéressant. Très politiquement très, très intéressé. Les parlementaires français sont en dehors de savoir si une industrie, si un régiment qui va être dissous ou pas, en quoi sont-ils véritablement incités? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir véritablement, encore une fois, exécutif. C'est pas les décideurs. Tous décident véritablement, c'est l'exécutif et particulièrement le domaine réservé du président de la République. Et donc tout ça attire les choses vers les décisions, mais aussi les compétences, l'intérêt. Vous allez effectivement, vous revenez en arrière dans les régimes parlementaires, même la Troisième République, là vous tombez, vous regardez, vous écoutez les débats qu'il peut y avoir sur ces questions, vous avez des gens qui connaissent parfaitement les sujets, qui s'y intéressent, qui écrivent des livres. Là-dessus, effectivement, vous avez des militaires qui interviennent éventuellement comme experts, on est dans le champ public. On n'est plus dans le cinquième public, on n'est pas dans... ces questions ne sont pas traitées véritablement dans le champ public. On peut le regretter. Hein. Et ça s'étend, on a déjà parlé, aussi aux opérations militaires. C'est quand même l'élément le plus important. Hein. On engage la force armée à l'Élysée. Là aussi, complètement. Et donc, ça s'est étendu à tous les champs considérés comme stratégiques, en réalité. Et puis derrière tout ça, il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué, mais il y a aussi le risque de l'opacité, c'est le risque aussi des détournements, de l'enrichissement personnel, des petites magouilles. On pourrait parler de d'Elf Aquitaine en son temps, des choses comme ça, quoi.
Voilà, par exemple, l'affaire des frégates de Taïwan, dont vous dites, enfin, c'est un haut fonctionnaire qui vous dit ça, Anne Poiret, dans votre enquête, que c'est un peu la date charnière, c'est-à-dire c'est le traumatisme originel, un peu, pour reprendre les termes exacts.
C'est ce qu'ils m'ont expliqué, oui, que c'était le fait que ces cartons soient saisis, que, enfin, toute cette entrée du judiciaire comme ça dans ces décisions industrielles et décisions politiques, ça a été quelque chose qui les a effectivement, qui a créé, m'ont-ils expliqué, une omerta en la matière.
J'ai quand même découvert, j'ai découvert plein de choses, évidemment, comme chaque jour d'ailleurs, en préparant l'émission, mais en lisant le chapitre qui, dans votre livre, Olivier Forcade, est consacré spécifiquement au secret défense, c'est que depuis 2016, alors, il y a un rapport du SGDSN, Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, sur cette notion, justement, du secret de la Défense Nationale. C'est un document qui est plutôt intéressant. Il y a un deuxième rapport qui a été publié début 2018. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui change progressivement la matière?
La continuité l'emporte sur le changement. Mais ce que vous évoquez est le rôle dévolu au Premier ministre en France et au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale qui relève de son autorité. C'est le SGDSN qui classifie le secret de la Défense nationale.
C'est déjà bien au moins d'avoir un document qui permette de comprendre comment sont classifiés justement les documents.
Voilà, tant sur les modalités que sur la mise en œuvre de la classification. Le SGDSN en une commission de classification est compétent. Il se tourne vers les instructions du Premier ministre et vers celles des ministres pour le secret de la Défense nationale. Il peut avoir un rôle très intéressant dans le travail sur la déclassification. Hein, avec le délai de communicabilité. Et là, on est dans l'exercice d'une société démocratique partagée, selon qu'on prendra des responsables en poste ou des citoyens comme nous, mais qui ont aussi un métier, entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une troisième possibilité, puisqu'on parlait des magistrats, des instructions. Il existe une commission du secret de la Défense nationale. C'est une autorité administrative indépendante. Elle peut être saisie par l'autorité publique ou par des magistrats, et elle a évidemment un rôle qui va pouvoir être de déclassifier un document quand il y a l'opportunité de le faire, sur par exemple une affaire d'État ou ce qui est considéré comme étant une affaire d'État, à un point de vue, pour lever l'incommunicabilité d'un document ou raccourcir le temps d'accessibilité à ce document.
On peut la saisir, cette commission, quand on est journaliste?
Oui. Alors, si je peux me permettre, le SGDSN préside les commissions, la CIEMJ, c'est-à-dire que c'est eux qui président ces discussions mensuelles pour savoir si on vend ou pas des armes, à qui, comment. Donc, ils sont partie prenante. Donc, je doute qu'ils déclassifient quoi que ce soit.
La question est celle du caractère total ou pas d'indépendance d'une autorité administrative indépendante.
Vous disiez, Olivier Forcade, des citoyens comme nous, vous n'êtes pas tout à fait un citoyen comme les autres, vous êtes historien. Est-ce que ça vous permet, vous, d'avoir accès à certains documents qui peuvent relever du secret défense dans le cadre de vos activités, ou bien peut-être d'ailleurs tomber par hasard sur des documents qui pourraient en relever, et auquel cas, comment est-ce que vous faites, vous, pour choisir si vous les publiez, si vous en servez, ou bien si vous les laissez dans le secret?
Oui, si le délai de communicabilité m'est donné, comme tout citoyen, je peux accéder à un document et examiner les conditions dans lesquelles il est à la fois interprété, expliqué et publié. Non, si une information, un document tombe sous le secret conseil ou défense, très secret défense nationale, je ne peux me tourner que vers la plus haute autorité de l'État pour demander la communicabilité d'une pièce qui ne l'est pas par définition. Par conséquent, vous voyez, la réponse peut changer du tout au tout.
Et pour terminer, Michel Goya, quand vous étiez donc dans l'armée de terre, vous avez participé à un certain nombre d'opérations militaires. Est-ce que même en étant ancien militaire, ancien colonel, vous êtes tenu à un devoir, alors, de réserve, c'est-à-dire de ne pas raconter ce qui s'est passé pendant un certain nombre d'années, par exemple, ou bien il y a un délai à partir duquel vous pouvez dire, bah voilà, là, ça s'est passé de cette manière?
Oui, il y a un devoir de réserve. Je ne peux pas parler, par exemple, en tant que militaire, j'ai été classé moi-même. J'ai reçu un degré d'habilitation, donc j'ai vu des documents secret défense. Je ne suis plus qualifié, je ne suis plus habilité secret défense. Je n'ai pas évidemment pas le droit d'en parler, au moins jusqu'à ce qu'il soit déclassifié.
Mais c'est une question légale ou c'est une question de déontologie personnelle?
Oui, c'est une question légale. Oui.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé merci à cette discussion. Je rappelle vos ouvrages, donc Anne Poiret, Mon pays vend des armes, ça sort demain aux éditions Les Arènes, et puis le documentaire télé rediffusé après-demain sur la chaîne LCP. Vous savez à quelle heure ?
20h30.
Michel Goya, votre dernier livre, Les vainqueurs, comment la France a gagné la Grande Guerre, c'était l'an dernier aux éditions Talendier, et puis c'est sorti il y a quelques jours de cela aux éditions du Nouveau Monde. Je vais décidément pas y arriver. Hein. Si, ça y est, Dans le secret du pouvoir, l'approche française du renseignement du 17e au 21e siècle. Ça, c'est votre livre, Olivier Forcade. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Amélie Perrault, Virginie Ledoux, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son Swad Boukorsa. Dans un instant, ce sera la dispute avec vous, Arnaud Laporte.
Absolument, elle sera musicale et très classique ce soir. Et la question du Grain à moudre de Hervé.
Le sport féminin est-il fait pour les hommes ?
On sera à l'écoute à 18h20. Merci beaucoup à vous. Il est 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.